Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Sébastien Krebs, et c'est l'heure du débat des grandes voix. Jusqu'à 19h, autour de vous pour commenter l'actualité, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue à vous trois. On va revenir évidemment sur ce déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui consacré à la lutte contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Et il vient de s'exprimer, tiens justement, Emmanuel Macron, écoutez.
Il y a, depuis plusieurs décennies, au nom d'une religion, non pas l'exercice simplement d'une religion, mais la volonté de ne plus respecter la loi chez certains. Face à cela, je ne suis pas à l'aise avec le mot de communautarisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous pouvons avoir dans la République française des communautés. Simplement, ces appartenances ne doivent jamais valoir soustraction à la République. Le problème que nous avons, c'est quand au nom d'une religion ou d'une appartenance, on veut se séparer de la République et donc ne plus en respecter les lois. C'est pourquoi notre ennemi est à ce titre le séparatisme.
Voilà Emmanuel Macron à Mulhouse il y a quelques minutes. Séparatisme donc, il met des mots sur un constat. Emmanuel Macron, pour l'instant, il n'y a pas de solution, mais il nomme les choses.
Parce que, si vous voulez, l'état des lieux est extrêmement alarmant. Vous venez de recevoir Bernard Bongier, il vous a cité quelques exemples. Il faut savoir qu'avant de se lancer en quelque sorte dans cette tournée, puisqu'il y a plusieurs étapes qui vont marquer le discours et la mobilisation, et justement provenant de cet état alarmant du président de la République, c'est qu'il a passé tout son été à lire et à relire tous les courriers, tous les concordats, tout ce qui a précédé les concordats, notamment celui de 1801, qui venait après celui de 1516, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, et notamment celle de la Révolution de 1790 qui a modifié le concordat de 1516, de 1801, des relations diplomatiques avec la religion catholique et surtout avec le Vatican. Mmh. Et ensuite, évidemment, le concordat, on peut l'appeler comme ça, en tout cas une loi organique, avec la communauté juive de 1806 et de 1807. Et partant de là, si vous voulez, compte tenu des rapports policiers, des rapports des préfets, des rapports des imams eux-mêmes, et notamment de certaines personnalités du monde musulman français, il a mis au point, si vous voulez, en quelque sorte, une stratégie d'entrave de cette progression de l'islam et de territoires qui constituent aujourd'hui des enclaves. D'où, évidemment, la naissance de ce mot, le choix du mot du président, le séparatisme. Parce que, dans ce qu'il a d'ailleurs rappelé, c'est que le Coran passe avant les lois de la République. C'est à partir de là qu'on considère qu'il y a un séparatisme.
Et qu'il y a un problème. Gérard Carrérou.
Oui, moi je pense qu'il y a un aspect très positif, c'est qu'enfin, ça fait 2 ans qu'on attend véritablement que le président de la République consacre une grande partie de son énergie à la lutte contre, alors on disait le communautarisme, il préfère le séparatisme, et il a expliqué pourquoi. Très bien, moi je trouve ça très bien qu'il choisisse un mot peut-être mieux adapté à la situation. Mais par contre, il dit le sujet au fond c'est la République française. Oui, certes, c'est la République française, mais il faut reconnaître qu'elle est en danger. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont dit on a perdu déjà ou on est en train de perdre la bataille contre l'islamisme. Et moi, j'attendais aujourd'hui du président, effectivement, un plan de lutte contre le séparatisme qui soit véritablement assorti d'un certain nombre de mesures. Alors, il a choisi une autre technique. Il a choisi un peu la technique des petits pas ou peut-être des petits cailloux. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous annoncer. On nous avait dit à un moment donné, vous verrez, il va y avoir un grand discours. Il y aura 25 mesures, dont certaines très importantes, des mesures policières, des mesures de sécurité, fermeture de mosquées, etc.
Là, il y va prudemment. Il y va en plusieurs étapes.
Alors, je note qu'il y va extrêmement prudemment, qu'il y va par petits pas, et je me demande si ce n'est pas une erreur stratégique. Je pense que le pays, maintenant, a besoin de comprendre que le président et l'État véritablement se mobilisent. Parce que la situation, vous avez entendu Rougier, qui a été formidable, vous avez noté un certain nombre de choses. Moi, je prends simplement un cas, celui de l'école. En 5 ans seulement, plus de 65% d'augmentation des écoles coraniques hors contrat. Ça veut dire, alors on dit aujourd'hui, alors il y a ceux qui disent toujours, ah oui, mais regardez, ça ne fait jamais que 100 000 enfants de plus sur 12 millions d'enfants. Certes, mais en 5 ans, la progression, elle est extrêmement rapide. Donc, sur l'école, sur les mosquées, sur un certain nombre de mesures, je pense qu'il vaudrait mieux un plan massif qu'une série de petits pas. Voilà.
Combler les retards de la République, c'est ce que nous disait Jean-Louis Borloo hier soir qui était avec nous. Catherine.
Oui, mais c'est-à-dire que là, le président vient de commencer. Lui, il a fait l'analyse de ce qui disloque aujourd'hui le corps social et il dit c'est le séparatisme islamique. Alors, il a dit on va lutter contre les influences étrangères. Mais comment ? Je veux dire, sur les... Il n'a pas parlé de fermer les mosquées salafistes. Or, il y en a plus de 100, paraît-il, et pour l'instant, il y en a que
12
deux.
Qui ont été fermées, deux ou trois ans.
Voilà, pas plus, et c'est peu. Bon, il veut favoriser un meilleur fonctionnement de l'organisation du culte musulman. Mais comment il veut le faire ? On attend maintenant qu'il, ayant énoncé ses mesures. Principes de ce qu'il veut faire, c'est les mesures. Lutter contre le séparatisme dans le détail. Il dit par exemple maintenant on ne peut plus supporter qu'on refuse l'égalité de l'homme et de la femme, qu'on refuse dans les hôpitaux de se faire soigner par des femmes, qu'on refuse au nom d'une religion de serrer la main des femmes. Alors comment va-t-il y arriver? Comment va-t-il s'y prendre? Là, c'est en tous les cas, c'est en... Bon, et il dit aussi que ramener la République là où elle est. S'il y a eu le séparatisme, c'est parce que la République était trop absente. Alors, il dit, par exemple, de l'école, du sport, de la culture, on n'a pas assez accompagné les familles. Alors, tout ça, c'est des grands principes. Et là, on va voir, c'était un discours, on va voir dans quelle mesure, si elles vont être efficaces, en tous les cas, les intentions sont bonnes.
Et on va essayer d'y réfléchir dans un instant. À tout de suite.
Il est 18h40. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Sébastien Krebs, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou et toutes vos réactions en direct au 39-21, le standard d'Europe 1.
La volonté, il existe dans ce pays une volonté de séparatisme au titre d'une religion, l'islam. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son déplacement à Mulhouse. On continue de le commenter avec les grandes voix et avec vous au 39-21. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Sébastien et bonsoir à tous les invités.
Bonsoir. Merci de vous joindre aux grandes voix.
Écoutez, je pense que notre cher président il enfonce des portes ouvertes. C'est évident. Il y a une chose bien simple que tout le monde doit comprendre et que tout le monde sait plus ou moins. L'islam ne fait aucune différence entre le temporel et le spirituel. Donc tout ce qu'on peut dire sur notre démocratie, tout ça... Tout ça, c'est d'être morte, si vous voulez. Le principe même de l'islam, il reste le temporel. C'est une religion qui doit s'appliquer à la vie de tous les jours, point. Alors, toutes nos fanfreluches démocratiques, tout ça, bon, ils s'en servent quand ils pratiquent la taqiya tant que ça leur sert.
Frédéric, il y a un certain nombre de musulmans en France qui sont pour la République et qui respectent les lois de la France, quand même.
Oui, mais... Vous savez, ils ne pourront pas échapper...
C'est même la très grande majorité.
Ils ne pourront pas échapper à leur dogme. Il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Alors, d'ailleurs, dans le dialogue, enfin, c'est même pas un dialogue, on ne fait que des propositions. Le monde musulman en face ne nous demande rien. D'ailleurs, ne vient jamais à une table de négociation. Pour une bonne raison, ils n'ont pas de consistoire. Vous avez autant d'intervenants que vous avez d'imams ou de ce que vous voulez. C'est très difficile, on ne peut pas réagir. Avec l'islam, quand on réagit par exemple avec la religion catholique...
Et vous attendiez quoi, vous, Frédéric ?
Et tout ça.
Pour finir d'un mot, vous attendiez quoi, vous ?
Oh ben rien. Je voulais qu'il se passe. De toute façon, maintenant, ce qui se passera. Le communautarisme, il existe, il ne fera qu'amplifier. Je pense qu'on arrivera à une sorte de mosaïque avec des zones musulmanes, des zones non musulmanes. Voilà comment on s'achemine.
Non, vous avez... Très bien, merci Frédéric de nous avoir appelé. Vous avez quand même une on entend Frédéric qui a une vision quand même assez pessimiste de la situation.
Il n'est pas le seul. La plupart des spécialistes, y compris celui que vous avez reçu, considèrent qu'on va atteindre très bientôt, si vous voulez, le stade de l'insoluble. Si on continue à retarder le détail justement des décisions. Et le document de travail auquel on parlait pendant cette pause tout à l'heure, parce que
les grands principes.
Catherine disait les grands principes.
Pendant
les grands principes
discours, voilà.
Sont les têtes de chapitre d'un développement qui existe justement dans un document de travail avec toutes les décisions.
Un programme très élaboré.
Avec un programme très élaboré. Le renforcement des contrôles dans le monde du sport, tout le détail est prévu. Fixer les règles en vue des élections municipales avec les listes communautaires, c'est prévu. Les préfets, de toute façon, ont reçu une injonction à la mobilisation, à la surveillance. Mais on ne détaille pas, il est resté là, très général.
Mais pourquoi
finalement.
Pour une raison extrêmement simple. D'abord, deux raisons plutôt qu'une. La nature même du président de la République, il ne veut pas faire un grand discours avec des mesures choc, cash, parce qu'il ne, il pense qu'à ça, à ce moment-là, il y aurait une énorme perturbation d'une partie du monde musulman. Déjà, quand il s'est baladé à Mulhouse, il y a des gens qui lui ont dit « Mais le simple fait que vous veniez chez nous à Mulhouse, dans ce quartier, vous nous stigmatisez. » Donc, il n'a pas voulu prendre le risque, effectivement, d'être...
Alors, de cette, de Gérard cette... et son parti, La République
oui,
en Marche.
Alors, c'était ma deuxième raison. Son parti, et c'est toujours le « en même temps » et c'est toujours l'ancienne gauche et parmi les macronistes et les ralliés de la droite. Et là, il y a des divergences formidables. Si vous prenez par exemple un homme comme Taché, le député Taché de La République en Marche, il est beaucoup plus, lui, sur l'idée qu'il ne faut surtout pas heurter le monde musulman. Et du coup,
ça tombe bien, il sera là à 19h10.
Eh ben, vous lui poserez la question, parce que je trouve que la rétention, on a l'impression ce soir qu'on nous avait annoncé, on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, ce discours formidable. Oui, le Monde, il y a plusieurs jours, j'ai ressorti le papier. C'était le plan de lutte, et vous avez là-dessus toute une description.
Pour l'instant, c'est les grandes lignes, c'est favoriser l'organisation du culte en France.
On a un peu l'impression qu'il défonce, comme l'a dit l'auditeur, on a un peu l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes.
Le calendrier n'est peut-être pas étranger, on est quand même à un mois des élections
municipales.
Mettre fin au financement des mosquées, c'est le cas justement à l'inauguration à Mulhouse, financé complètement par un État dont on sait que l'État du Qatar finance en partie les frères musulmans et le militantisme des frères musulmans. La fin des imams formés par le Maroc, par l'Algérie, à l'étranger, financés par l'Arabie Saoudite, etc. Tout ça est prévu et on ne l'annonce pas. On ne le fait pas.
Il a peur de mettre le feu en pleine campagne ?
Oui, moi je crois, parce qu'il a très peur. Là, à chaque fois qu'il va maintenant en province, il y a des réactions incroyables. Par exemple, le maire de Saint-Gervais, qui l'a reçu, où il est venu à la montagne pour constater le...
Il témoignait encore ce matin.
Témoignait encore ce matin pour dire qu'il a reçu 800 messages d'insultes et de menaces de mort, et avec des tags injurieux partout dans la ville où il y avait marqué « Dégage, connard », en parlant du président de la République. Donc là, il y a une violence en ce moment qui fait que le président, il arrive quelque part dans une ville. D'abord, il a dit que l'accueil avait été formidable. On a vu qu'il avait pris son temps, comme s'il était à ses débuts et il donnait de l'espoir aux gens. En tous les cas, il ne veut surtout pas les brusquer. Parce qu'avant une élection municipale, je pense qu'il a peur des réactions de violence sur le terrain.
Il n'y a eu aucun incident. Il avait plutôt été bien accueilli. Il a passé 2 heures dans les rues à dialoguer avec les habitants.
Parce que le plan risque pas de heurter les gens, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose jusqu'à
présent. Pour l'instant, en tout cas, les prochains déplacements, a priori, dans les jours qui viennent, et des annonces qui vont être étalées, a priori, sur plusieurs semaines. C'est ce qu'on comprend, en tout cas, ce soir. On se retrouve dans un instant, les grandes voix. On va dire un mot de Paris, quand même, de ce qui se passe dans la campagne à Paris. À tout de suite.
Il est 18h49. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Sébastien Krebs, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou et toutes vos réactions au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La politique ce soir, c'est aussi ce début de campagne pour Agnès Buzyn qui est donc devenue la candidate pour la mairie de Paris en quittant hier en larmes le ministère de la Santé dans ce contexte compliqué. Elle prend la suite de Benjamin Griveaux. Visiblement, jusqu'au dernier moment, elle ne voulait pas y aller. On comprend que c'est Emmanuel Macron qui lui a forcé la main. C'est le bon choix, Catherine Ney ?
Je ne sais pas, mais je veux dire, ces larmes, bon, quand on quitte un ministère dans lequel on a aimé, dont on a aimé la gestion, quand on s'y sentait bien, c'est toujours émouvant de céder la place à un autre ministre. Mais là, ces larmes montraient qu'elle partait à regret et que dans le fond, on lui a imposé de quitter le gouvernement pour se lancer dans une bataille à laquelle elle n'est pas préparée. Probablement, elle n'en avait pas envie. C'est ça le plus... Alors peut-être qu'elle va se prendre au jeu. Bon, en plus, ça n'est pas une politique. Je ne dirais pas que c'est une grande oratrice. Vous voyez, quand elle parle, elle a un peu une voix de feutre qui ne porte pas. Alors, elle aura sûrement des gens auprès d'elle qui l'a... Donc, je ne sais pas. Elle va peut-être réussir. Je veux dire, en tous les cas, En Marche a l'air de dire que c'était la solution, quand il n'y avait pas d'autre. Bon, est-ce qu'elle peut faire mieux que Benjamin Griveaux, qui, avant ses affaires malencontreuses, était déjà très discrédité ?
Elle ne peut pas faire moins bien, puisque tout le monde, d'abord, un, il y a eu des tombereaux d'hypocrisie dans cette affaire. Tout le monde disait Griveaux, c'est pas le type qu'il aurait fallu, etc.
Absolument.
Tout le monde critiquait le personnage, y compris dans son propre. J'ai vu des gens de son staff qui disaient c'est pas possible,
mais
ce type-là, il nous parle jamais, etc.
Sûr.
Donc, de toute façon, Madame Buzyn, de ce point de vue-là, a un avantage formidable. C'est une personne, moi je la connais pas personnellement, mais c'est un ministre qui, semble-t-il, quand même, a un aura, une aura, et elle aura de la sympathie. Manifestement, donc déjà. Et quelque part, le plan B, c'est-à-dire le plan Buzyn, est meilleur que le plan A, qui était le plan Griveaux. Ouais. Alors, à partir de là, si elle réussit, par exemple, un coup, comme de ramener dans les filets Villani, et si elle déclenche un mouvement...
C'est pas le cas, semble-t-il.
Oh, c'est pas le cas, mais bon, c'est un peu juste, il n'y a pas encore de...
Oui, mais elle l'a appelé, ils ont pas mal parlé.
Mais là, on va voir les sondages. Mais si véritablement elle faisait un coup comme ça, et si elle se trouve avec une certaine sympathie du public, elle peut prendre des voix à droite.
Elle avait quand même de très très lourdes aussi au gouvernement, le coronavirus, l'hôpital, la réforme des retraites qu'elle aurait dû défendre cette semaine,
l'Assemblée.
Est-ce que ça ne donne pas l'image que LREM passe avant ?
Quitte quand même l'état de désespérance de l'hôpital public.
Oui.
Encore avec des démissions d'éminents professeurs, chefs de service à la Pitié-Salpêtrière, à Bichat et à d'autres hôpitaux. Je ne cite que les Parisiens, bien sûr. Il y en a bien d'autres à Marseille, à Grenoble, à Nice, etc. Non, ce qu'il y a, moi je comprends ses larmes. Je suis comme Catherine Ney. Elle a perdu un ministère, elle a gagné en incertitude. Hein, c'est normal finalement que ça lui amène quelques larmes.
Bon, non, puis elle aimait le job.
Cela étant, moi je trouve que c'est une très bonne candidate, une très très bonne candidate il y a 6 mois. Mais là, maintenant, 4 semaines avant l'échéance, pour créer une dynamique et pour sauver la face et sauver les meubles de la Macronie à Paris, ce sera très difficile.
Ça c'est sûr, mais c'est vrai que Rachida Dati, qui avait fait le trou, comme on dit, qui avait réussi à s'imposer comme le challenger de Madame Hidalgo, elle avait réussi, les sondages la montraient à chaque fois en deuxième position, très, très haut, autour de 20 ou parfois légèrement plus.
Et Benjamin
Griveaux
derrière.
Elle a un électorat qui est l'électorat de la droite, et je pense que Madame Buzyn peut peut-être plus facilement récupérer une partie de cet électorat de la droite.
Oui, parce que c'est une hématologue, c'est un médecin, c'est une très bonne médecin.
Raison, c'est une
bourge. Elle a une voix douce, feutre, comme dit Catherine, frais, elle est sympathique. Mais enfin,
et effectivement, toute la question sera de voir s'il y a un rapprochement, probablement plutôt dans l'entre-deux
de la capitale.
Probablement dans l'entre-deux-tours, si ça arrive, mais un rapprochement éventuel avec Cédric Villani. Est-ce qu'il est plus facile pour Agnès Buzyn de se rapprocher de Villani après le contexte tendu qu'on connaissait avec Benjamin Griveaux ? Est-ce que ça peut faciliter les choses ?
La position avec Benjamin Griveaux, c'était vraiment des ennemis jurés. Ouais. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait quand même été reçu par le président de la République pour lui faire un bras d'honneur à la sortie sur le trottoir de l'Élysée. Mais le président, vous savez, les En Marche, dimanche, n'avaient plus qu'un mot, c'est rassemblement, rassemblement. Et on avait compris que l'ordre de l'Élysée, c'est de dire, puisque moi je n'ai pas réussi à ramener Villani dans le bercail, il faut que Madame Buzyn y arrive.
Et moi je crois qu'elle va y arriver.
Ouais.
Eh ben on verra ça et on suivra cette campagne parisienne qui décidément nous réserve des rebondissements. Il y en aura d'autres d'ici le 15 mars et le premier tour des élections municipales. Merci les grandes voix, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve. Belle soirée à vous trois. Europe 1.